Gasol. À Kawhi. Une seconde. Kawhi.
Bon,
c'est... Moi, je me lance pas d'entendre ça. Je sais pas pour vous autres, là, mais...
Là, c'est ton fameux match de basketball.
Oui, le match de dimanche où les Raptors ont éliminé les 76ers de Philadelphie. Ça, c'est le panier gagnant de Kawhi Leonard. Il n'y a plus de temps au cadran. Et là, le temps s'arrête pendant 3 ou 4 secondes. Le temps que le ballon rebondisse 4 fois sur l'anneau avant de tomber dans le panier et assurer la victoire aux Raptors. Tu sais, là, c'est un événement, là, et Ray pourra confirmer. Ray Lalonde qui est avec nous ce matin. Salut, Ray.
Bon matin, messieurs.
Moi, écoute, là, tout de suite, la première chose qui m'est venue en tête, c'est le coup de Tiger Woods au tournoi des maîtres. Quand la balle s'est arrêtée sur le bord du trou, question de voir bien en évidence le logo de Nike, et la balle est tombée dans le trou ensuite. Tu sais, le bat flip de José Canseco, le circuit de Joe Carter à Toronto, ça fait partie de ces événements, ces moments magiques dans le monde du sport. On va en parler avec Ray parce que la finale de l'Est débute ce soir entre les Raptors et les Bucks de Milwaukee. Il y a plus de 5 millions de personnes qui ont vu le panier gagnant de Kawhi Leonard. 260 000 personnes au Québec sur RDS2. Pas sur la chaîne principale, sur RDS2. Ray, quel va être l'impact de ça sur la popularité du basketball au Canada et au Québec?
Ben, il y a plusieurs points que tu mentionnes, Alain, là, mais une chose qui est claire, c'est que seul le sport peut créer des moments et des émotions de ce calibre-là. Parce que, honnêtement, le basketball, tu vois les codes d'écoute, gigantesques pour un moment comme ça. C'est comme si tout le monde savait qu'il allait se passer quelque chose en fin de match. Le match était tellement serré, fait que là, il fallait river nos yeux là-dessus. Comme Tiger Woods peut le faire au golf, ben les Raptors l'ont fait dimanche soir. Alors, le basketball est déjà en ascension au Canada depuis longtemps. La NBA est installée ici depuis l'arrivée des Raptors en 1995-96. Ça a pris une bonne dizaine d'années aux Raptors de se tailler une place dans le cœur des amateurs de Toronto, juste au niveau des assistances au Air Canada Center à l'époque, le Scotiabank Arena aujourd'hui. Mais 10 ans après, les Grizzlies avaient quitté Vancouver, mais les Raptors sont devenus l'équipe du Canada. Et depuis ce temps-là, il y avait 24 joueurs canadiens dans le tournoi du March Madness au mois de mars dernier. Toronto est devenue une ville américaine pour le développement et le recrutement de jeunes joueurs de basketball.
Mais ça, c'est l'effet, ce qu'on appelait l'effet Vince Carter, qui a été la première grande vedette et des Raptors de Toronto.
Mais les Raptors, en 95, c'était à l'époque de Jurassic Park, puis les petits dinosaures, puis les jeunes aimaient ça. Ben, je me souviens, j'étais avec l'NBA à l'époque quand on a fait cette expansion-là, puis on s'est dit, ça fait un petit peu enfantin, les Raptors en mauve. Mais tu sais, ça a évolué au fil du temps. Les Raptors sont devenus une franchise sérieuse. Ça vaut presque 1,5 milliard de dollars à elle seule, US, et ils sont parmi les meneurs de la NBA depuis des années. Alors, l'effet basketball au Canada, ça fait en sorte que les jeunes d'aujourd'hui se connectent très bien à l'espèce de facteur de basketball qui fait que c'est dynamique, c'est excitant, puis on marque des points à la tonne.
Bon, mais ce qui est arrivé dimanche, ça repose sur Kawhi Leonard. Et on ne sait pas ce qu'il va faire l'an prochain. Il est agent libre à la fin de la saison. S'il devait quitter Toronto, est-ce que la balloune va se dégonfler?
Non, je pense pas. Je pense que les Raptors ont misé beaucoup pour l'avoir. Lui a une grosse décision à prendre. La différence, c'est 5 ans, 190 millions s'il re-signe avec les Raptors versus 4 ans, 140 millions s'il quitte les Raptors. Alors, il y a une décision intéressante. Les Raptors sont en belle position. Mais s'il quittait, les Raptors ont quand même atteint la finale.
Moi, j'ai une question. Je vous écoute parler de ça, là, et je me souviens d'une de tes interventions où tu as dit « Montréal n'aura jamais de club dans la NBA. » On regarde Toronto, on voit bon l'énervement puis la passion, mais... T'es convaincu que Montréal n'a pas le marché pour ça?
Ben, je pense pas que Montréal est là pour le moment, Paul. On a peut-être une dizaine d'années à attendre, là. Un, la facture est au moins 2 milliards pour le club. Au moins. C'est plus cher qu'une équipe de baseball. Puis on a beau avoir un Centre Bell pour les accueillir. Le cap salarial dans le basketball de la NBA cette année, c'est 109 millions pour 13 joueurs. Ça coûte très cher. Et la culture du basketball au Québec n'est pas encore prête à assimiler 41 matchs par saison. On peut y aller une fois par année, on aime le match pré-saison. C'est un peu comme le baseball, 81 matchs, c'est beaucoup. Puis c'est un peu le défi de l'impact où la culture du soccer n'est pas encore complètement cimentée au Québec.
Et basket est en compétition directe avec le hockey, là.
Tout à fait.
C'est la même saison
régulière.
C'est
sûr, Paul, que les Canadiens souffriraient en termes de part de marché s'il y avait une équipe de la NBA ici. D'ailleurs, il y a toujours une séparation parce que les gens font des choix. Ils ont trop d'alternatives.
OK, on va parler de l'impact un peu parce que Don Garber, le commissaire de la MLS, est venu à Montréal faire une conférence lundi. Et tu sais, encore une fois, on a l'impression qu'il n'y a jamais de bonnes nouvelles quand il est question de l'impact. Là, c'est le stade, puis il est dans l'Est, puis il va falloir mettre un toit, puis un gazon chauffant, puis les hommes d'affaires n'embarquent pas dans l'histoire de l'impact. Puis l'an passé, c'était Joey Saputo qui disait « Je paye un gars 5 millions, je serais peut-être mieux d'en payer 3 à 2 millions. » Puis là, comment ça que l'impact a tant de difficultés à s'implanter à Montréal?
Ben, d'abord, là, moi, ce que je déplore un peu, c'est que Garber vient... Dimanche, on ne parlait pas de l'impact. On n'était pas inquiet là, des développements, des améliorations locatives autour du stade. Lundi, il vient, et là, tout le monde est négatif. Là, tout le monde se pose toutes sortes de questions à savoir ce que l'impact peut survivre dans une ligue comme ça.
On a l'impression qu'il envoie un message. Ouais. On dit, regardez le Sangel avec son stade de 350 Exactement. Millions, puis Beckham avec son projet d'un milliard en Floride. Là,
puis... Oui, c'est un appel un peu à la détresse. Puis ce que je dis, c'est qu'ils ont quand même une bonne équipe cette année. L'équipe est en bonne main avec Rémi Garde. Mais c'est une culture de basket, de soccer, Alain, qui est pas là. Et l'impact peut pas espérer attendre pendant que le reste de la MLS se développe en croissance. Faut réinvestir dedans.
Bon, mais écoute...
Non, mais c'est parce que tu regardes ça, là, ils ont eu un calendrier épouvantable pour débuter l'année. Ils ont une très belle fiche compte tenu du calendrier, sans leur grande vedette Piatti qui est absent depuis des semaines. Puis tout ce que tu entends, t'as l'impression que tout va mal avec l'impact de Montréal. Il n'y a jamais rien de bon. C'est, comme je disais tantôt, c'est le gazon, c'est le terrain, c'est le toit, c'est...
Faut être patient.
Non, puis comme je disais hier, là, l'an prochain, là, quand le tunnel va être fermé, là... Les gens de la
Alain, le tunnel ne sera pas fermé. Non, le tunnel va être légèrement perturbé. Avec un corps de voix dans chaque direction. Merci. Il est 8h30.